connexion. Il faut vérifier que les intervenants sont dans la salle. Okay. Comment allez-vous? Absolument, oui, oui. On va lancer le zoom et puis Jonathan va vous installer. Très bien. Tu peux l'installer ? Hop.
Bonjour. On commencera dans 5 minutes.
Vous allez l'installer ?
Je peux y aller.
Ah oui, si, vous pouvez y aller. Hop.
Vous allez juste ici.
Merci.
Je vous en prie.
Alors, excusez-moi, est-ce que nous avons Monsieur Omar Ba dans la salle ? Pas encore ? D'accord. Monsieur René Rivol, peut-être ? Toujours pas.
Messieurs, dames, bonjour. Soyez les bienvenus. Prenez place. Comme nous n'avons qu'1h30, nous allons essayer de commencer dès que possible.
Allô, allô. Allô.
Ah, super, ça marche.
Ça y est, ça marche ?
Ça y est, ça marche.
Super, très bien.
Alors, on ne vous voit pas encore, mais on va... On n'a pas tout à fait commencé. Pour l'instant, vous ne me voyez que moi.
Ok, okay. Mais vous, vous me voyez ?
Moi, je vous vois très bien. C'est la salle, okay. On ne vous voit pas pour l'instant.
Ouais. Ouais, c'est bon, ça c'est une affaire de projection, ça devrait aller.
Il n'y a pas de souci.
J'espère.
Alors, je demande à la régie, on va juste faire un test pour voir si on voit l'écran Zoom, si vous pouvez switcher sur l'autre écran. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Bonjour, bonjour. Entrez pour qu'on puisse commencer. Les intervenants sont tous et intervenantes sont tous arrivés. Il ne manque plus que vous. Rebienvenue.
Ça va,
ça va. Alors là, toute la salle vous voit. Donc, mais vous, je pense que vous ne voyez pas, vous ne voyez personne, vous ne me voyez que moi, malheureusement. Ouais. Donc, nous sommes avec Ornella Modéran, qui est l'une des intervenantes, spécialiste du Sahel. Et donc, je vais devoir vous raconter ce qui se passe dans la salle. On est là, voilà. Donc là, on atteint presque 100 personnes. Prenez place. Entrez, entrez. Prenez place. Soyez les bienvenus.
Lucas, tu veux que je commence le mot d'accueil, puis je passe la parole à Benoît. Quand ils sont tous installés, je ne sais pas quelle heure il est. On va y aller, hein. Ça va être bien. Bonjour. Êtes-vous le représentant d'Omarba ?
Oui.
Très bien, enchanté.
C'est Madame Dio.
Moi, je suis Constance. Constance Coupoui, c'est Madame Dio qui vous a orienté vers nous. Vous allez lire son message, c'est bien ça ? Parfait, très bien. Soyez le bienvenu. Lucas, tu peux me faire prendre place ? Monsieur Niassé. Nous allons commencer. Soyez les bienvenus, entrez. Il reste des places, n'hésitez pas par le haut. Et comme c'est un ancien, tout le monde peut voir même en étant au fond. Ce sont d'ailleurs les meilleures places, celles qui sont tout en haut. N'hésitez pas, prenez place. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je me présente, Constance Coucoui, chef du service animation géographique et thématique à Cités Unies France. Soyez les bienvenus à cette réunion régionale Afrique qui portera Lucas Giboin et les intervenants vont pouvoir vous l'indiquer. Mais avant tout, je laisse la parole à Benoît Pilet, vice-président de Cités Unies France, président de la mission Sahel, adjoint au maire d'Angers, qui va nous indiquer donc quel est l'objet de cette séance qui nous réunit aujourd'hui et qui sera animée par Lucas Giboin. Benoît, c'est à toi.
Merci Constance, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Roland, notre ancien président parmi nous. C'est sympathique de se voir ici. Donc le Sahel, l'Afrique, je ne mélange pas tout. On sort d'un atelier Sahel avec des particularités que vous connaissez tous. L'Afrique est une constance au niveau de Cités Unies France. Nous y sommes toutes et tous extrêmement investis depuis des dizaines d'années. En ce qui concerne la ville d'Angers, par exemple, 50 ans avec Bamako l'année prochaine. Ça fera 50 ans, on espère qu'on les fêtera, mais ça, c'est autre chose. Un contexte qui évolue énormément. Si lors des rencontres, les premières rencontres à Poitiers en 2019, alors qu'on projetait les assises suivantes en 2021 à Bamako, on avait imaginé ce que serait devenu aujourd'hui la zone sahélienne et toutes les aspirations que les États sahéliens, les élus, la population et sahélien, et sahélienne et française avaient, on aurait peut-être fait les choses différemment. Le dernier coup d'État, effectivement, au Niger, le sentiment anti-français qui monte dans les populations, parfois, souvent, instrumentalisé. Mais ça, c'est notre regard de la France. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir des échanges avec des sachants, des diplomates, des chercheurs qui travaillent le sujet, qui sont en capacité d'enlever le vernis que nous pouvons tous avoir, des préjugés, mais avoir aussi un discours en profondeur qui nous permette de mieux comprendre les interactions aujourd'hui qui lient ou qui délient nos États et, en prolongement, notre coopération décentralisée qui s'en trouve parfois orpheline, malgré des coopérations qui sont vraiment ancrées dans nos territoires, que ce soit dans nos politiques publiques ou par le biais d'associations qui sont investies depuis des années et qui ont souvent passé le flambeau à d'autres générations qui continuent le travail avec nos collectivités partenaires, ça devient effectivement compliqué. Donc une table ronde qui va permettre le dialogue le plus ouvert possible, avec la présence effectivement de son Excellence l'ambassadeur du Sénégal qui clôturera la qui n'est pas là, mais qui par la pensée sera avec nous. Un temps vraiment d'échange où l'intérêt, outre le fait de se nourrir d'éléments de contexte que nous ne maîtrisons certainement pas toutes et tous dans nos fonctions grâce des qualités. Et un échange avec la salle qui peut permettre aussi de lever certains verrous ou craintes qui nous permettent de continuer cette coopération centralisée ou peut-être parfois de la stopper pour mieux la redémarrer. Mais comment garder des liens avec des collectivités dont les États ont décidé que les relations diplomatiques, étatiques devaient être rompues.
Merci, Benoît. Bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, Lucas Giboin, je suis chargé de mission à Cités Unies France. Et donc je vais animer cette table ronde qui a été préparée avec Constance Koukoui, responsable du service, et Jonathan Koukoui, qui est en stage à CUF actuellement. Donc on va avoir cette table ronde avec deux chercheurs et trois élus et représentants d'élus. Elgas, je vous appelle comme ça si ça vous convient. Vous êtes romancier, chercheur à l'IRIS. Vous avez publié récemment un essai dont on va parler tout à l'heure. Ornella Modéran, à distance, qui est analyste politique et sécurité au Sahel. Et comme élu, nous avons avec nous René Revol, maire de Grabel, partenaire de Abalak au Niger, vice-président de Montpellier Métropole. Catherine Boucher, adjointe au maire d'Alonne, partenaire de Sanga au Mali. Et nous avons également Monsieur Niassé, qui représente Oumarba, maire de Ndiop, président de l'Association des maires du Sénégal et président du Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de l'UEMOA. Donc, comment ça va se passer? D'abord, pendant un certain temps, on va échanger avec Ornella et Elgas, donc sur ce sentiment anti-français. On a souhaité faire cette table ronde sur donc, la coopération décentralisée à l'épreuve du sentiment anti-français en Afrique subsaharienne, réalité, perception, témoignage. Donc, une première session d'échange avec les chercheurs, ensuite les témoignages des élus, et enfin un temps d'échange avec la salle où on pourra, voilà, où on pourra échanger tous ensemble. Donc, Elgas, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, en régie, si vous voulez bien mettre les. Voilà, notre intervenante.
Je pense qu'elle ne voit pas la salle.
En fait, elle ne peut pas voir la salle. Mais par contre, est-ce qu'elle nous entend ? Ornella, est-ce que vous nous entendez ? Moyennement. C'est vrai qu'il y a encore un peu de bruit, les gens sont encore en train de s'installer. Donc il y a de la place par là. Allez-y. Donc Ornella, si jamais vous entendez pas, faites-nous signe. Et on essaiera de se rapprocher du micro. Donc, ouais, je pense qu'en fait, il faudrait se rapprocher de l'ordinateur. Alors, on est là, on va essayer de se rapprocher du micro pour que vous nous entendiez. Après, c'est vrai que là, il y a un peu de bruit, hein, parce que les gens sont encore en train de s'installer.
C'est beaucoup mieux lorsque vous êtes plus près de l'ordinateur.
Ok, donc reprenons, si vous le voulez bien. Donc Elgas, vous venez de publier en début d'année un essai qui s'appelle « Les bons ressentiments », essai sur le malaise post-colonial, où vous parlez notamment, enfin où il y a un chapitre consacré aux sentiments anti-français, même si ce n'était pas le cœur de l'ouvrage. Vous parlez aussi des aliénés, de ce que vous appelez des aliénés et des rebelles aliénés. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler, nous faire à gros traits cette généalogie du sentiment anti-français et anti-occidental ?
Oui, bonjour à tous. Merci, cher Lucas. Alors, c'est toujours un peu hasardeux de faire une généalogie parce que la période chronologique, elle est vaste, elle est complexe. Mais on peut peut-être revenir sur quelques marqueurs qui me paraissent essentiels pour comprendre justement, essayer de comprendre ce qui se passe actuellement dans les relations postcoloniales. Alors, il va sans dire que la blessure originelle, bien sûr, elle reste naturellement la colonisation. La colonisation, son entreprise de violence, de destruction, d'expropriation et toutes ses survivances en quelque sorte. Et on a beau dire, on a beau faire, en quelques années, cette blessure-là, elle ne peut pas se refermer de manière aussi facile, aussi immédiate. Maintenant, y a-t-il la tentation parfois de recourir excessivement à cette blessure pour faire l'impasse sur des faillites et des responsabilités locales ? C'est aussi un autre aspect. Parce que regarder l'histoire, c'est la regarder avec une certaine forme de vérité, sans obsession, mais aussi sans absolution. Et donc la nécessité de pouvoir dire cette vérité-là et de la considérer dans sa totalité. Alors, j'ai identifié, moi, pour aller très vite, de façon ramassée, oui. Okay. Alors, j'espère que Ornella entend mieux. Très bien, merci. Alors, j'ai identifié, moi, quatre temps, on va dire, quatre temps qui me paraissent fondateurs de ce sentiment, même si je voudrais commencer par dire que la terminologie de sentiment anti-français, moi, ne me convient pas. Elle ne me convient pas pour une raison. Un sentiment porte parfois sur l'émotion, sur quelque chose parfois d'irrationnel, d'incontrôlé, quelque chose de spontané, quelque chose qui peut être parfaitement pavlovien. Et ainsi de suite, quand on est dans cette terminologie-là, on a tendance à dépolitiser parfois des contestations qui sont légitimes. Et donc, quelque chose qui est important, c'est de pouvoir dire, quand on parle de sentiments anti-français, deux choses. La première, c'est qu'il y a une contestation légitime. La contestation légitime, c'est une contestation à la fois de discours, de survivance, d'une asymétrie, d'une certaine forme encore de domination dans ses formes les plus pernicieuses. Le dire, ce n'est pas accabler justement certains bourreaux, mais c'est un rappel des faits qui me paraît un préalable essentiel. Deuxième aspect maintenant, qui est peut-être un peu plus problématique, c'est l'instrumentalisation que l'on fait de ce passif-là. Et là, pour le coup, il y a un acteur qui est un ordre international qui industrialise en quelque sorte ce sentiment. Et c'est là où le sentiment bascule vers autre chose, le ressentiment, et on va en parler aujourd'hui. Au cours de mes recherches et dans mon livre, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle « La généalogie du sentiment anti-français ». Et j'ai mis « sentiment anti-français » entre guillemets. Et ça, voilà, c'était juste pour montrer, encore une fois, que je n'adhérais pas totalement à cette terminologie. Et il faut regarder à ce moment-là comment l'ethnologie coloniale fait une peinture de l'Afrique. Cette ethnologie coloniale, c'est une ethnologie qui est déviée, qui est parfaitement raciste, on peut le dire, sans passer par quatre chemins. On peut prendre l'exemple d'un gouverneur célèbre au Sénégal, Louis Fédéherbe fait une classification, ses documents sont accessibles à qui il veut, sur le site de Gallica par exemple, sur les ethnies au Sénégal. Il attribue au Wolof des traits, au Poulard certains traits, et dans une logique qui est purement dépréciative, et dans un regard qui est un regard exogène, un récit exogène, qui sera le dénominateur commun en quelque sorte de toutes les ethnologies coloniales, c'est-à-dire les discours sont fomentés à l'extérieur du continent avec ce regard européocentré ou occidentocentré, on l'appelle comme on veut, et qui crée dès les conditions en fait d'un récit qui installe le continent dans quelque chose d'ahistorique, en lui déniant sa souveraineté propre, en lui déniant en quelque sorte du génie, en expliquant en quelque sorte qu'il faut aller la civiliser. Donc il y a dans cette entreprise-là, dans ce départ-là, quelque chose qui peut nourrir un sentiment de contestation parfaitement légitime. Et cette technologie coloniale, c'est là où il faut être juste. Elle n'a pas été poursuivie telle qu'elle. On ne lui a pas donné un quitus éternel en quelque sorte pour exister, parce qu'il y a eu des chercheurs français, dont je me réclame de la filiation, Georges Balandier, qui a fait un travail formidable et qui a écrit à cette époque un article retentissant qui s'appelle « La situation coloniale ». Il explique que toute cette recherche est vouée en quelque sorte à nourrir des canons qui sont préétablis dans la société, dans les sociétés occidentales et dans la société française, et qu'en conséquence, elles ne peuvent avoir aucune forme de valeur et de justesse, parce que justement, ce qui les fonde est une entreprise de domination. Et à partir de ce moment-là, il se joue quelque chose d'important, parce que presque à la même période, il y a une revue qui naît à Paris en 1947 qui s'appelle la revue Présence africaine, qui est lancée par Alioune Diop. Et Alioune Diop, d'ailleurs, on n'est pas dans quelque chose qui se soucie de la carnation des membres pour leur dénier soit de la légitimité ou essayer de les disqualifier, parce qu'à l'époque, il y a André Gide, il y a Léris, il y a beaucoup de Français qui sont dans cette entreprise, justement, pour essayer d'adresser, excusez-moi de l'anglicisme, ou de redresser en tout cas, justement, ces problématiques coloniales. Donc, il me semble qu'il y a à ce moment-là quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe, sans compter justement les représentations sur l'inégalité des races. Je vous ferai l'économie de parler justement du livre du comte Arthur de Gobineau, ainsi de suite. Et je peux en citer. Voilà. Donc il y a à ce moment-là quelque chose qui se cristallise sur une dépréciation chronique du continent. Après, arrive une période qui était une période à la fois d'euphorie, de vitalité intellectuelle, de contestation, c'est la période des années 40, des années 50 et des années 60, qui va être d'ailleurs la période qui va présider à la libération et aux indépendances. Et à ce moment-là, la vitalité intellectuelle, elle est telle que, justement, on commence à avoir une contestation légitime et sophistiquée de tout ce qu'a été la colonisation. C'est à ce moment-là que les cadavres commencent à sortir un peu du placard, qu'on montre ce qu'a été la colonisation. Et il y a un livre qui a été, moi, un livre important dans ma formation, qui a été d'ailleurs au programme dans les lycées français, c'est le livre « Le discours sur le colonialisme » d'Aimé Césaire. Alors, l'éducation nationale a eu la bonne idée en France de mettre ce livre au programme et la très malheureuse idée de le retirer du programme. C'est un livre qui est un livre absolument formidable qui montre justement ce qu'a été la colonisation. Entreprise capitalistique, entreprise de domination, entreprise de dépossession et entreprise de négation de l'humanité des autres. Et je pense que ce livre-là cristallise à l'époque, quand il sort, 1956, les désirs de liberté qu'on retrouvait à la fois chez les ressortissants du continent africain, mais aussi en France. Parce que la lutte contre la colonisation, et c'est là qu'il faut sortir d'une tentation parfois de réifier l'Occident, en considérant que l'Occident est un bloc unique, parce qu'à l'intérieur de l'Occident, il y a eu des chercheurs, il y a eu des scientifiques, il y a eu des penseurs qui ont contesté justement cette colonisation. Donc il me paraît essentiel de revenir sur ça pour ne pas tomber dans des manichéismes faciles, pour pouvoir tenir justement les multiples bouts de cette histoire et de ces relations complexes. Et donc il y a eu cette phase. Il y a une autre phase qui est une phase importante, qui me paraît importante pour aujourd'hui. C'est les interventions militaires. Les interventions militaires sur le continent. Alors, je fais large, même si les interventions obéissent à des agendas qui sont des agendas intrinsèques, qui sont inaliénables. Mais on ne peut pas faire l'économie de parler de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a été un moment très, très fort dans notre histoire collective, avec ses violences, ses humiliations, ainsi de suite, qui a cristallisé aussi un sentiment, oui, de haine parfois, et puis d'injustice, parce que toute violence engendre, en contrepartie, une certaine forme de contre-violence. Et donc, à ce moment-là, il y a un héritier de Césaire, d'ailleurs, qui éclot à ce moment-là, c'est Frantz Fanon, qui écrit « Peau noire, masque blanc », qui va écrire « Les damnés de la terre » par la suite. Et ce qu'il dit à l'époque est intéressant parce qu'il parle d'aliénation. Il est l'un des premiers, avec l'égyptologue sénégalais, le scientifique Cheikhanta Diop, à faire le procès de ce qu'il appelle l'aliénation. C'est-à-dire ces gens qui se sont dévêtus de leur substance pour embrasser, je veux dire, l'identité occidentale, poursuivant ainsi les logiques de la colonisation. Cette justesse dans l'analyse prenait ancrage dans un contexte d'urgence et de contestation du racisme. Seulement, ça a débordé par la suite. C'est-à-dire la traque aux potentiels aliénés est devenue une forme de sport favori dans les mondes intellectuels et africains, où on va toujours dans la course aux plus identitaires, aux plus africains, sans savoir qu'on donnait quitus parfois aux forces les plus régressives. Et là, on le verra à la fin de notre propos. Et donc, il y a ce moment-là. Et puis, on ne peut pas ne pas parler d'une autre intervention militaire. C'est au Rwanda. Parce qu'au Rwanda aussi, on a créé les conditions, en fait, d'un sentiment ou d'un ressentiment contre, justement, les zones d'ombre, le flou qu'il y a existé pendant cette période-là. Donc, il y a ces interventions militaires donc, dans les années 60, après dans les années 90, 2000, et leur résurgence, maintenant, aujourd'hui, ces interventions. Au Mali, d'abord. Au Mali, on doit être juste. L'intervention Serval n'a pas été négociée en catimini dans un bureau de l'Élysée. C'était une demande du Mali, avec un mandat, d'ailleurs, international pour le faire. Comme toutes les guerres contre le terrorisme, c'est des guerres ingagnables. Les Américains n'ont pas gagné en Irak, les Russes n'ont pas gagné en Afghanistan. On crée tout le temps les conditions d'un enlisement. Dans ces conditions, on ne peut pas en sortir. Est-ce qu'il y a des erreurs qui ont été faites par la France ? Je ne suis ni juge, ni comptable de l'histoire. Je pense qu'il appartient à chacun de faire son examen de conscience. Mais en tout cas, on ne peut pas dans cette histoire venir de façon très, très commode, accabler les uns et exonérer les autres. Parce que dans toute relation double, il y a des responsabilités de toutes les parties. Et si on veut qu'il y ait un dialogue franc, un dialogue qui puisse être un dialogue nouveau, qui sorte justement toujours de cette réification du fait colonial, il faut qu'on puisse faire à la fois les examens de conscience des deux côtés. Il me semble parfois que de ce côté-là, il y a des fragilités et il y a des manques. Le dernier élément maintenant sur ce sentiment, c'est un totem dont on a parlé depuis les années 60, totem qui a existé, mais totem qui survit dans d'autres formes, c'est ça, France-Afrique. La France-Afrique est importante parce qu'elle a été une entreprise d'une grande opacité criminelle, voilà, avec des crimes identifiés, avec justement celui qui murmurait à l'oreille de De Gaulle les affaires de la colonie, Jacques Foccart. Il y a des biographies assez éloquentes qui parlent justement de ce qu'a été la France-Afrique. Et il est assez amusant que l'un des derniers pays à rejoindre ce que le chercheur que j'aime beaucoup, Francis Laloupo, appelle la petite boutique des calamités, c'est-à-dire le Gabon, que le Gabon y passe. Parce que s'il y a un pays symbole de ce qu'a été justement la France-Afrique, bah le Gabon est central. D'ailleurs, le livre qui va être un livre fondateur dans les études pour comprendre ce qu'est la France-Afrique, c'est un livre de Pierre Payan qu'il écrit en 1983 qui s'appelle « Affaires africaines ». Dans les années 2000, il y a François-Xavier Verschave qui va faire justement la France-Afrique, l'histoire d'un long silence, ainsi de suite. Et donc, la France-Afrique, récemment, on a interrogé la ministre de la Défense française, on lui a dit ce que la France-Afrique existe toujours. Elle a dit non, c'est fini. Alors, on peut lui donner tort et raison. On peut lui donner tort parce que dans sa structure ancienne, la France-Afrique n'existe pas. Mais dans certaines formes de mutation, dans certaines formes de survivance, dans certains clichés, dans certaines asymétries, on ne peut pas dire que tout soit tout à fait disparu actuellement. Donc cette France-Afrique-là, elle suppose beaucoup de choses. On pourrait, je pense qu'on n'a pas le temps, et puis je vais faire court parce que je pense que il y a d'autres qui doivent prendre la parole. Il y a la question du CFA, il y a la question qui se recoupe, celle des interventions militaires, et puis il y a la question du discours. Parce que dans des relations, il n'y a pas que les actes et les faits. Les affects sont aussi charriés par quelque chose de très important, c'est-à-dire la posture et la perception. Et il me semble que là, pour le coup, la diplomatie française pourrait gagner à la fois en finesse et surtout en diplomatie, parce que le registre du discours est important, parce que le registre du discours et le sentiment d'un paternalisme encore, qu'il soit juste ou pas, est perçu pour encore raidir les opinions. Il me paraît que c'est quelque chose d'assez important. De façon ramassée, et on part malheureusement très rapidement sur d'autres aspects, voilà ce qui peut susciter, encore une fois, un sentiment très très fort d'hostilité vis-à-vis de la France. Le dernier élément qui me paraît important, c'est les États faillis dans le continent. Parce qu'il faut se dire aussi parfois la vérité, les institutions sont fragiles, il y a eu des présidences à vie, il y a eu des confiscations du pouvoir, il y a eu des captations, des ressources, ainsi de suite, qui ont créé justement les conditions d'une désaffection et puis les conditions d'une dépréciation de la démocratie considérée comme un élément exogène qui est importé. À partir de quoi, justement, on a donné en quelque sorte une forme de validation que les coups d'État pouvaient être des modalités de transmission du pouvoir comme d'autres. Quand on sait que quand il s'agit de Thomas Sankara ou de Rawlings, ça a plutôt suscité des espoirs. Et c'est à ce niveau-là, dans le tropisme identitaire qui a toujours prévalu dans le monde intellectuel, les États faillis, les erreurs manifestes françaises, ainsi de suite, que se trouvent justement ces relations postcoloniales très difficiles qui n'existe pas uniquement en France, mais qui existe de façon peut-être un peu plus marquée en France. Et donc, c'est cette généalogie qui me paraît importante de faire et justement de ne pas se refermer là-dessus, parce que je pense qu'il ne s'agit pas de tomber dans un dolorisme et de se lamenter sur ce qu'on ne peut plus faire. Il y a à écrire de très, très belles pages parce que cette histoire n'aura pas de rupture. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise. J'ai tendance à considérer que c'est une bonne. Et qu'il faut l'écrire ensemble. L'écrire ensemble, ça suppose de le faire avec des responsabilités, sans dolorisme, sans ressentiment. Et donc, c'est l'objet de mon essai, dont je n'ai pas voulu parler ici en longueur, parce que je pense que ça prendrait énormément de temps. Voilà.
Ben, merci beaucoup. Alors, on va aussi, maintenant, avec l'intervention d'Ornella, mettre en perspective ce que vous venez de dire à l'aune des événements récents au Burkina, au Mali, au Niger. Si on peut afficher Ornella, parfait. Avant, je vais quand même lire un petit extrait, deux phrases. Vous êtes... Au début, vous avez parlé de cette faille fondamentale, du problème fondamental qui est la colonisation. Et donc, je vais lire juste deux phrases. Toute colonisation, avec son cortège de violence, de crimes, d'expropriation, crée d'elle les origines, les conditions de la résistance, donc du rejet. La contre-violence est consubstantielle à la violence. Elles cheminent ensemble dans un tandem tragique. Ça permet aussi à l'audience d'apprécier le style et voilà, et la langue qui est fournie. C'est très dense, mais c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, maintenant on va passer à Ornella Moderan, donc qui était auparavant analyste à l'Institute for Security Studies de Bamako. Avec cette question, quelle est votre réaction face aux propos que vient de tenir Elgas, notamment au regard des événements récents? Parce qu'il y a bien eu ces manifestations avec, en l'occurrence, l'expression de ce entre guillemets sentiment anti-français au Burkina, au Niger, de façon assez marquée hein, vis-à-vis des ambassades de l'Institut français, au Mali un peu plus tôt en 2020. On pourra peut-être y revenir après si on a le temps. Ornella, je vous laisse la parole.
Très bien, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien.
Oui, on vous entend.
Parfait. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si malheureusement je n'ai pas pu faire le déplacement d'être avec vous à distance. Je viens à la suite donc d'Elgas qui a déjà soulever plusieurs des points essentiels, mais je vais essayer d'apporter éventuellement certains compléments ou certains points de vue additionnels. Je pense que la présentation, tout autant que l'ouvrage d'Elgas, met le doigt sur des données essentielles, sur les enjeux historiques, les enjeux de durée qui se posent lorsqu'on veut pas parler d'eux et comprendre cette révolte ou ce ressentiment contre la France que l'on observe dans plusieurs pays africains. Et je parlerai tout particulièrement du cas du Sahel central, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sont les pays où j'ai le plus travaillé ces dernières années. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est lié à la mémoire coloniale, sans doute plus vive du côté des colonisés, que du colonisateur. Et là, on a un peu une situation systématique, en tout cas récurrente, de porte-à-faux qui consiste à dire « mais c'est du passé, ça n'existe plus, certes, théoriquement du moins, mais il faut reconnaître, il faut prendre la mesure de ce que les plaies sont si profondes qu'elles ne sont pas complètement refermées et qu'il en faut parfois assez peu pour les rouvrir. Tout cela donc ravivé par l'édifice de la France-Afrique qui a duré un certain temps et dont on sent encore certains relents, comme l'indiquait mon prédécesseur tout à l'heure. Je pense qu'il y a également la dimension de la déception mêlée de soupçons qui est liée aux échecs réels ou perçus des interventions militaires françaises dans le cas du Sahel en particulier. Alors certes, ça n'est pas à vrai dire une problématique uniquement française. La France n'est pas la seule en cause dans le fait que la lutte contre le terrorisme n'est pas aboutie à ce stade au Sahel, mais elle a eu un rôle de chef de file et d'entraîneur, on va dire d'entraînement plutôt, des partenaires internationaux dans leur ensemble, de la communauté internationale. Et c'est notamment pour cette raison, en plus des facteurs historiques, qu'elle paye plus cher que les autres, ce qui au final n'est pas tant l'échec des interventions françaises seulement, Serval ou Barkhane, ou encore la force Sabre, mais plutôt l'échec, on va dire, de toute une architecture régionale de sécurité qui a été mise en place depuis 2012 dans le Sahel central et qui, on s'en rend compte 10-11 ans plus tard, n'a pas porté les fruits attendus. Et enfin, il y a la question des valeurs. Et on sent, on va dire, ces dernières années dans la région, un retour en force, un retour sur le devant de la scène de valeurs autoritaires et conservatrices, parfois réactionnaires, qui justifient par exemple les prises de pouvoir à travers des coups d'État, qui affichent des sympathies avec des modèles de gouvernance à l'extrême opposé, on va dire, du libéralisme occidental, notamment les sympathies russes, qu'il faut vraiment lire, je pense, en fait, non pas tant comme une pro-Russie que comme un anti-France, on va dire, ou comme un anti-Occident. Alors, pour compléter ces éléments-là, j'ajouterai quelques points. Je reviendrai notamment tout d'abord sur la terminologie. Elgas en a parlé tout à l'heure, mais je voudrais vraiment insister sur ce point. Le terme de sentiment anti-français renvoie au domaine du ressenti, justement. On parle de sentiment, donc de l'émotion, de la subjectivité affective, plutôt qu'à celui de la raison. En cela, il n'est pas tout à fait étranger aux conceptions coloniales, franchement racistes, qui assignaient les peuples africains au domaine de l'émotion plutôt qu'à celui de la raison. Lorsqu'on fait référence à certaines oppositions en Occident, on ne parle pas de sentiment anti-russe ou de sentiment anti-américain. Donc là, en somme, l'idée, on va dire, est directement héritée de la bibliothèque coloniale, que, entre guillemets, l'émotion est nègre et la raison est hélène. On a tous déjà entendu cette citation d'un homme célèbre qui renouvelle les clichés coloniaux infantisants. Donc il est vraiment important, je pense, de dépasser cette vision et même de dépasser cette terminologie, car en l'espèce, les griefs qui sont formulés à l'encontre de la France n'ont rien d'émotif ou d'approximatif, ils sont rationnellement articulés et il faut les prendre pour tels. Les points d'argument qu'il faut entendre sont nombreux. Ils incluent notamment la question de la présence militaire française dont on parlait tout à l'heure. Certes, cette présence en nombre de paires de bottes sur le terrain a été divisée par plus de 5 depuis les années 60, mais en même temps, elle fait l'objet d'une suspicion renouvelée au regard d'une apparente inefficacité. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas l'inefficacité de la France seulement qui est mise en cause, mais tout particulièrement celle-ci qui est visible. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles une partie importante de l'opinion publique dans le Sahel ne pardonne pas ou alors a du mal à croire, on va dire, à un échec de bonne foi des opérations militaires françaises dans la région, c'est aussi cette propension à vraiment mettre sur un piédestal l'ancien colonisateur. Donc l'idée en 2013, était que si la France est là, nous gagnerons forcément, mais finalement, nous n'avons pas gagné. Alors, a-t-elle vraiment combattu en bonne foi? A-t-elle vraiment fait tout ce qui était possible, etc. Donc, cette suspicion naît à travers cet échec concret. Il ne faut pas oublier non plus le rôle qu'a joué et qui a été rappelé plusieurs fois par la suite la France dans l'intervention en Libye qui a eu un effet déstabilisateur sur l'ensemble de la zone en 2011, donc cette intervention. Un autre élément d'importance, c'est la question de la monnaie, du franc CFA et des divers contrats économiques, surtout dans les domaines des industries extractives qui sont jugées injustes, déséquilibrées et qui, encore une fois, alimentent cet esprit de suspicion. Suspicion autour de l'uranium nigérien, autour du projet de pipeline pétrolier qui était prévu dans ce pays, autour de certaines autres industries, notamment l'extraction de l'or au Mali et au Burkina, etc. Alors, il y a là tout un espace d'imaginaire qui se mêle des réalités économiques documentées, mais ces réalités sont également augmentées par une opacité, par le fait que l'insuffisance d'accès à l'information fiable laisse cours à toutes sortes de supputations qui ne font que grossir, on va dire, suspicions. Et enfin, il y a toute la question des déclarations politiques paternalistes. On en a beaucoup d'exemples, malheureusement, ces derniers mois, notamment au niveau de l'Élysée, qui renouvelle, quant à elle, le reproche qui est fait à une arrogance toute française que l'on ne constate pas de la part d'autres puissances, anciennes puissances coloniales envers leurs anciennes colonies. On entend très rarement un Premier ministre britannique parler des anciennes colonies britanniques de la même manière qu'on entend des responsables politiques français le faire parfois par rapport à l'Afrique francophone. Donc ce serait une erreur de vouloir minimiser cette rhétorique anti-française qui est vraiment un discours politique de remise en cause d'un statu quo en essayant de le circonscrire aux seules conséquences d'efforts de propagande anti-occidentaux ou à un simple effet d'optique. Alors c'est vrai certes qu'il y a ces deux dimensions, il y a une propagande anti-occidentale qui est mise en œuvre. Au Mali, on l'a très bien vu avec la mise en place de véritables usines à trolls financé en partie par la Russie, ou alors un effet d'optique qui consiste à prendre, on va dire, un relativement petit groupe de personnes, quelques dizaines de milliers de personnes manifestant dans une grande ville ou dans une capitale, et à extrapoler à partir de là ce que serait une opinion nationale. Donc il y a certes ces deux biais qui existent. Pour autant, ces deux biais-là, la propagande et l'effet d'optique, ne suffisent pas à eux seuls à rendre compte des mutations qui sont en cours. Il est important de chercher à comprendre ce que dit véritablement le discours de plus en plus récurrent d'opposition à la France et à la politique française, politique africaine française en particulier, dans ces pays, plutôt que d'essayer de le balayer d'un revers de la main, comme on entend parfois certains le faire ou essayer de le faire. Alors, j'ajouterais peut-être juste deux points pour ne pas être trop longue. Alors, excusez-moi, j'ai une petite interruption, voilà. Voilà, donc je disais, j'ajouterais peut-être juste deux points. Alors, la première chose, c'est que quand on parle, quelle que soit la terminologie qu'on adopte, qu'il s'agisse d'un sentiment ou d'une rhétorique anti-française, il est important de préciser aussitôt que celle-ci s'oppose, que cette rhétorique s'oppose à une posture étatique, à des réseaux d'influence politique et économique organisés, réels ou supposés, et non aux citoyens français pris à l'échelle individuelle. En cela, on est quand même très loin de l'atmosphère qui a pu régner en Côte d'Ivoire lors de la crise des années 2000, par exemple, lorsque les citoyens français étaient directement et physiquement menacés, dans certains cas, en raison de leur nationalité. On n'est pas du tout dans cette configuration au Sahel jusqu'à présent. Cela signifie que malgré toute l'hostilité qui s'exprime à l'égard des politiques étrangères réel ou perçu de la France en Afrique, il existe encore, au moins au niveau individuel, des liens, des passerelles pour rétablir ou bien pour renouveler la relation partenariale. Et donc, il est d'autant plus dommageable de vouloir remettre ces liens ou ces passerelles en cause, notamment à travers des décisions, et là je suis vraiment dans le cœur de l'actualité, des décisions d'annulation de mobilité étudiante ou d'entrave aux échanges culturels, comme cela fait la une des journaux ces derniers jours, puisque c'est peut-être à travers ce type de mécanisme que le dialogue va pouvoir, à terme, être rétabli. Donc, enfin... pour conclure, je nous invite très simplement à ne pas buter non plus sur cette question du sentiment ou de la rhétorique anti-française, qui est au final une pièce, un élément d'une équation beaucoup plus large, qui est celle de la refonte, on va dire, des relations d'une partie de l'Afrique avec le reste du monde. La France est en première ligne pour diverses raisons historiques, géopolitiques, économiques, sécuritaires que nous avons évoquées. Mais derrière cela, il se joue également des mutations extrêmement profondes dans les opinions publiques des pays eux-mêmes. Il se joue des mutations politiques extrêmement profondes. Et je pense qu'il est toujours important d'essayer de comprendre ces changements du point de vue de l'expérience nationale. Donc se demander d'abord qu'est-ce qui, dans l'expérience nationale, domestique, à l'interne, explique, on va dire, un revirement vers des positions plus conservatrices ou plus nationalistes qu'auparavant, plutôt que d'avoir une vision par trop européocentrée qui consiste à ramener tout un peu à la question de comment la France, l'Occident, l'Europe ou d'autres acteurs sont perçus. Ces acteurs, au final, pour le Sahel, ne sont que des acteurs extérieurs et donc par définition secondaires. Je m'en arrêterai là, merci beaucoup.
Merci beaucoup Ornella. Alors, quelques éléments de synthèse, forcément incomplets. D'abord, donc, tous les deux, vous avez mentionné donc, ce sentiment anti-français, vous avez mis en garde contre, sur la terminologie, en expliquant que voilà, ce n'était pas forcément correct, ou alors que ça pouvait surtout servir d'autres intérêts, mais qu'il fallait le prendre avec des pincettes, pour parler un peu crûment. Deuxième élément de synthèse, la légitimité de l'expression de ce sentiment dans ses différentes formes. Et enfin, troisièmement, il ne fallait pas le réduire à la propagande ou à l'instrumentalisation qui peut en être faite, mais au contraire, c'est révélateur de quelque chose de plus profond, de mutations plus profondes au sein des sociétés qui l'expriment. On pourra tout à l'heure, en fonction du temps qui nous restera, bien sûr, vous redonner la parole. On va maintenant donc faire un focus un peu sur la coopération décentralisée, qui est, là encore, avec ses particularités, et donc on a pour cela des élus qui vont pouvoir en parler. Dans un premier temps, je vais vous donner la parole, Monsieur Nias. Donc vous représentez, je rappelle, Oumar Ba, qui est maire de Ndiop et président de l'association des maires du Sénégal, président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA.
Je vous remercie. Moi, je m'appelle Mohamed Habib Nias. Je suis le maire de Taïba Niassène. C'est une commune au centre du Sénégal. Vice-président à l'association des maires du Sénégal. C'est M. Ba, Oumar Ba, président de l'Association des maires du Sénégal, AMS, et président du CCT, Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, qui était attendu à cette table ronde, dont le thème porte sur la coopération décentralisée à l'épreuve du sentiment anti-français en Afrique subsaharienne, réalité, perception et témoignage. Pour un empêchement de dernière minute, M. Ba n'a pas pu faire le déplacement. Et il m'a demandé tout d'abord de présenter ses excuses et de dire à sa place donc le mot qu'il devait tenir. Ce mot, c'est tout d'abord en tout cas des remerciements adressés à On n'entend pas. Donc, je disais que ces mots, c'est des mots d'abord de remerciement à l'adresse de Cités Unies France, qui a bien convié l'Association des maires du Sénégal donc à cette rencontre. Cette 14e édition, mais au-delà de l'association des maires, je crois que c'est l'ensemble des élus, parce que dans la salle, vous avez ici en face le président de l'Union des associations d'élus locaux, donc qui regroupe, qui est le cadre fédérateur des associations d'élus locaux du Sénégal. Et partant donc à cette table ronde, qui est assez importante, dont la thématique pratiquement nous intéresse très particulièrement. Parce que l'association des maires du Sénégal en a parlé dès son installation, en rencontrant l'ambassadeur de France au Sénégal, mais aussi Cités Unies et l'association des maires de France. Parce que je suis bien d'accord avec mes prédécesseurs par rapport, en tout cas, à ce sentiment anti-français qu'il faudrait peut-être mettre entre guillemets. Je crois que il y a une remise en question, en tout cas, de l'existant du statu quo qui est là, dont il faut, en tout cas, chercher les tenants et aboutissants. Mais je crois que le sentiment entre Français, il faut toujours quand même le mettre entre guillemets. Le constat que nous avons fait, c'est qu'il n'y a pas, en tout cas, plus que le Sénégal, un pays plus que lié à la France que le Sénégal. Et ça, il faut le lire à travers, en tout cas, d'abord les différents acteurs, donc, de quoi on peut parler, en tout cas, des liens forts qui existaient entre Léopold Sédar Senghor et Georges Pompidou, les présidents donc, Pompidou et Senghor, les présidents Abdou Diouf, Chirac, donc les premiers ministres Habib Thiam, Lionel Jospin, c'est des relations fortes qui existaient entre ces acteurs, en tout cas. Et dans tous les autres pays, en tout cas, de la sous-région sud-africaine, vous trouvez aussi ces relations entre donc, ces leaders africains et français. Donc, à travers ce militantisme et le cheminement de ces politiques, donc, ça a toujours, en tout cas, été des relations fortes qui existaient entre ces acteurs-là. Mais aussi, il faudrait aussi constater que pratiquement la France, en termes d'investissement, a beaucoup fait dans ces pays-là, dans ces pays aussi bien au Sénégal que, en tout cas, dans tous les pays de la sous-région. Donc, le constat qui est fait au Sénégal est valable partout, donc dans ces pays subsahariens. Malgré tout, il y a aujourd'hui et de plus en plus, donc ce sentiment entre guillemets, donc anti-français, qui retentit partout, donc que ça soit donc dans cette zone subsaharienne, pour différents motifs. C'est là peut-être qu'il faudrait, en tout cas, chercher à analyser davantage. On peut en trouver beaucoup. Donc mes prédécesseurs en ont véritablement surveillé certains. Ils en ont trouvé certains. Moi, je vais pratiquement en prendre ici deux. Le premier, c'est le fait que pratiquement tout ce qui a été réalisé ici, donc jusqu'à présent, c'est au niveau État, entre l'État français et les États donc africains, c'est-à-dire qu'en termes macro. Et que désormais, je crois qu'il faudrait donc repenser donc ce paradigme-là. Il faut changer de paradigme. Et dès lors, penser à une, ce qu'on appelle plus, beaucoup plus, à une diplomatie des peuples. C'est-à-dire que mes prédécesseurs ont parlé de France-Afrique, donc de tout ça. Mais tout se passe entre État et État. Et on constate une remise en cause, remise en question de ces relations-là. Donc, il y a problème. Et on se dit dès lors qu'il faudrait, en tout cas, repenser ces relations et aller beaucoup plus vers, en tout cas, cette diplomatie des peuples. Et dès lors, la coopération décentralisée retrouve, en tout cas, tout son sens, toute sa quintessence. Parce que ce qu'on constate, c'est de plus en plus, en tout cas, dans ces relations État-État, pratiquement les aspects culturels sont de plus en plus mis à l'écart, et ce qui, en tout cas, fait toujours, en tout cas, ressurgir, en tout cas, ces sentiments de remise en question, de remise en cause. L'autre question par rapport à ces relations État-État, c'est donc le fait que les investissements, parce que j'ai parlé de beaucoup d'investissements qui sont réalisés, mais est-ce que ces investissements sont toujours gagnants-gagnants? Est-ce que toutes les parties prenantes y retrouvent leur compte? Ça aussi, en tout cas, c'est une remise en question qu'il faudrait analyser. L'autre motif, parce que j'en avais annoncé deux, l'autre motif, c'est quand même, il ne faut pas imputer toujours à l'Afrique donc le problème. Il y a quand même un certain populisme qui retentit ici. Et ce populisme-là aussi fait partie, en tout cas, des motifs qu'il faudrait, en tout cas, interroger pour voir, en tout cas, comment doivent évoluer, en tout cas, ces relations entre les différentes. Il faudrait que, de plus en plus, quand même, qu'on assume notre histoire. C'est-à-dire que les relations entre la France et les pays africains, c'est une longue histoire, donc qu'il faudrait en tout cas donc assumer de part et d'autre. Mais si tant est que, en tout cas, la coopération est décentralisée, que nous voulons en tout cas une coopération diplomatique des peuples, cette coopération pratiquement ne saurait aussi être donc une panacée. Elle est pertinente, certes, pour en tout cas juguler certaines situations, mais quand même, il faudrait que, au niveau des États, qu'on essaie en tout cas aussi de repenser donc ces relations-là et considérer que pratiquement il y a nécessité au niveau des États donc d'asseoir une coopération qui colle encore plus l'image en tout cas une image de solidarité et en tout cas de tolérance. Je pense que cette table ronde pratiquement à l'heure véritablement de soulever en tout cas des questions cruciales qui se posent à notre monde d'aujourd'hui, mais qui, en tout cas, sans aucun doute, avec les échanges et les débats en tout cas, qu'elle va susciter, en tout cas, permettra en tout cas, de faire avancer les choses. Aujourd'hui, il y a un besoin réel en tout cas, de repenser l'ensemble en tout cas, des relations entre ces pays pour que en tout cas, l'ensemble des pays, en tout cas des partis, donc ils puissent trouver en tout cas leur compte. Nous, en tant qu'acteurs locaux, en tout cas, nous considérons qu'aujourd'hui, de plus en plus, il faut en tout cas, en termes de coopération décentralisée, se focaliser davantage sur ces relations entre peuples, parce que madame qui intervenait l'a dit, pratiquement si à défaut de tout ce qui se passe, en tout cas, dans les pays du Burkina, du Mali, du Niger, malgré tout, en tout cas, il n'y a pas ce sentiment. C'est parce que quand même, donc, au niveau, en tout cas, des peuples, donc, on peut toujours faire quelque chose qui puisse pratiquement faire en sorte que les relations entre la France ou l'Occident et les pays africains puissent, en tout cas, connaître un meilleur avenir. Voilà pour l'instant, en tout cas, ce que je pourrais annoncer. Et ça, oh non, effectivement, il est un peu difficile de parler à la suite des éminents chercheurs, mais on a, en tout cas, donc, essayé, par rapport à ce que nous ressentons, en tant qu'élus locaux, donc, véritablement, nous considérer que, pratiquement, nous croyons à la coopération décentralisée, mais focalisé sur, en tout cas, un dialogue pertinent, en tout cas, entre les peuples. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Nias. Alors, vous avez déjà posé plusieurs jalons hein, de ce que constituent ces particularités de la coopération décentralisée, où vous avez plaidé pour une diplomatie des peuples, qui diffère de la diplomatie d'État, et vous avez plaidé aussi donc, pour une diplomatie des territoires. Deuxième intervenant, je vous propose de rester en place. Non, il faut absolument qu'il vienne devant l'écran. Ok. René Revol, vous êtes maire de Grabel, qui est partenaire du Niger. Vous vous apprêtiez à lancer un nouveau programme dans l'eau et l'assainissement, et donc ça a été stoppé au mois d'août, lors de la décision de suspension de l'aide publique au Niger.
J'ai bien compris, il faut que j'aille là-bas. Merci. Merci. Très bien. Bonjour à tous. Merci d'abord, avant tout, pour cette rencontre, parce que je pense que les élus locaux qui sont ici, confrontés à la mise en œuvre concrète de la coopération décentralisée, parfois depuis de longues années, sont aujourd'hui pris dans un étau géopolitique et politique qui, nous laisse démunis. Et moi, je suis venu ici non seulement pour vous rendre compte de mon expérience, mais aussi pour apprendre de cet échange pour nous disposer dans les semaines qui viennent. Alors, je suis maire de la ville de Grabel, 9000 habitants dans la métropole de Montpellier, où je m'occupe de la vice-présidence en charge de l'eau et de l'assainissement, et je suis ici avec la vice-présidente qui s'occupe de la coopération internationale, Mme Claire Hart. Je voudrais rendre compte de mon expérience et de répondre aux questions posées, parce que, en fait, l'expérience qu'on a, il y a deux niveaux. Et à ces deux niveaux, ce que je ressens par rapport à cette question dite du sentiment anti-français, même si la terminologie n'est pas bonne, puisque ça nous sert de base pour la discussion, n'est pas la même. Le premier niveau, c'est le niveau purement communal qui a été le nôtre. Il y a 20 ans, 2003-2004, une enseignante revient du Niger et organise dans sa classe une correspondance avec des classes d'une école qui est au nord, qui est du côté d'Abalak, qui est à 700 km au nord de Niamey. Et à l'époque, j'étais président des parents d'élèves de cette école, et nous avons mis au point un dispositif de relation avec les villages concernés. Et en se choisissant des actions modestes qui consistaient à faire qu'il y ait un puits qui soit creusé pour chaque école. Et peu à peu, nous avons travaillé. Le hasard a fait que je suis devenu maire en 2008, et c'est à cette époque que c'est devenu un vrai partenariat de coopération décentralisée, mais toujours appuyé sur cette correspondance entre les écoles. C'est-à-dire, et il est étonnant, c'est pas étonnant, je trouve que c'est magnifique, aujourd'hui, des enfants qui avaient 10-11 ans en 2004 ont eu des correspondants, et 20 ans après, aujourd'hui, ils correspondent toujours. Alors, mon prédécesseur parlait de diplomatie entre les peuples, c'est peut-être un de ces aspects, si vous voulez. Donc, cette action menée, nous avons une relation avec les élus d'Abalak absolument permanente. Depuis le mois de juillet, nous nous téléphonons très régulièrement pour nous soutenir, pour essayer de comprendre, pour voir comment on continue. Et lorsque la mairie, qui, disons, a pris la décision de faire qu'on dépenserait, parce qu'on était modeste, hein, en moyen, 1 € par habitant pour cette coopération avec Abalak, nous sommes passés de 6 000 à 9 000 habitants, une croissance démographique forte autour de Montpellier, et actuellement, chaque année, nous mettons 9 000 euros qui passent par une association en liaison directe avec l'association qui est sur place. Donc, après avoir creusé les puits, on a aussi acheté des chèvres, et puis maintenant, on achète des céréales pour faire que la cantine soit nourrie à chaque fois, et on est arrivé à modifier le taux d'alphabétisation, parce qu'à partir du moment où on peut boire et manger à la cantine, les enfants vont à l'école et les parents ils sont favorables. Et donc, on a modifié la scolarisation. Ça a l'air modeste, tout ça, mais c'était notre niveau d'analyse. Et donc, je considère, dans les relations que nous avons établies, qu'il s'agisse des relations entre les élus des deux collectivités ou qu'il s'agisse des relations entre les enfants, qui sont ensuite devenus des hommes et des femmes, et ou entre les familles, eh bien, depuis le mois de juillet, je ne ressens pas d'hostilité vis-à-vis de la France. C'est le contraire. Ils cherchent à renouer quelque chose. Alors, ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, c'est qu'après tout, on s'est aperçu que notre action était beaucoup trop modeste, donc on est allé frapper à des portes supérieures, et notamment, il y a un investissement qui s'est mené, et nous avons monté le projet dont vous parliez, comme vous m'avez présenté tout à l'heure, un projet d'adduction d'eau potable avec un forage, un projet sur lequel on travaille depuis des années, et qui avait abouti, et nous avions choisi la maîtrise d'œuvre locale des délégués, tout était prêt, l'investissement allait commencer. Alors, ça n'a plus rien à voir avec mes 9 000 euros, hein. C'est 1 200 000 euros. Alors, on peut se dire comment une commune de 9 000 habitants, dont le budget est autour, tout compris, de 8 millions, peut sortir 1 200 000. On ne les a pas sortis. On a tout fait pour qu'il y ait un financement. Et l'Agence française du développement a été essentielle en donnant les 2/3 de ce financement. Et l'Agence de l'eau, l'autre tiers de financement. Et nous avons dû, à ce moment-là, nous sommes rentrés en relation avec beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs beaucoup plus urbains et beaucoup plus liés à la vie de la capitale du Niger et avec qui nous avons commencé à discuter. Et là, le sentiment qui se pose, c'est dans des relations très fraternelles, c'est qu'ils rejettent une situation dans laquelle, et il faut qu'on tienne compte de ce rejet si on veut agir, une situation dans laquelle nous serions, nous, Français, les sachants, et ils auraient à apprendre de nous. Ça, c'est une expression de tout ce que vous avez expliqué au début, de cette relation de domination, parce que voilà, il faut appeler les choses par leur nom, hein, les chercheurs, par bonheur, utilisent ce mot, de domination, et il prend la forme d'une sorte de bienveillance qui ne fait pas pour autant disparaître la domination. Voilà, je tiens à ça. Donc ça signifie qu'il faut fonder une façon de travailler qui fait que nous sommes en commun et que, comme l'a dit l'un des étudiants, je vais peut-être finir par là pour ne pas être trop long, l'un des étudiants, parce qu'on a beaucoup de relations avec le Mali, avec le Burkina et avec le Niger, et un étudiant burkinabé nous disait, d'une manière extrêmement simple, mais nous avons les mêmes diplômes que vous, nous avons fait les mêmes recherches que vous, nous avons le même savoir que vous, simplement la base sur laquelle on agit est inégale entre nous, et vous devez compenser cette inégalité en nous donnant plus de place dans cette coopération. Donc cette deuxième expérience me paraît décisive pour la réflexion collective. Alors c'est pour ça que nous avons décidé, notre commune, il faut d'abord décider ce qui s'applique à nous-mêmes, nous avons décidé, notre commune, de maintenir cette année l'achat des céréales, puisque nous passons par un financement hors étatique directement par les associations. Donc ils ont les 9000 euros, ils vont acheter les céréales et les enfants iront à l'école, quelle que soit la situation géopolitique. Décision qu'on a prise. Donc je n'ai pas reçu de consigne de quiconque pour me dire de ne pas le faire. On m'aurait donné cette consigne, nous n'aurions pas obéi à cette consigne. Et je m'adresse maintenant solennellement aux autorités françaises. Surtout, n'arrêtez pas la coopération culturelle et la coopération étudiante. Ils sont là. Et sinon, vous les envoyez dans les bras de qui? Vous les envoyez dans les bras de qui? Donc, il faut absolument la maintenir pour que l'on puisse faire face à cette situation exceptionnelle. Voilà mon expérience.
Merci beaucoup. Alors, dernière illustration. La ville d'Alonne, qui est partenaire de Sanga au Mali. Madame Boucher, vous êtes adjointe au maire d'Alonne, donc je vous laisse la parole.
Donc, je suis Catherine Boucher, première adjointe de la ville d'Alonne et chargée des relations internationales que nous avons, tout simplement. Nous sommes en coopération décentralisée donc, avec la ville de Sanga, enfin la commune de Sanga au Mali, à côté des grandes falaises de Bandiagara, dans les pays d'Ogon. Ça fait 20 ans que nous entretenons ce que nous appelons une amitié. Pour nous, sur Alonne, une relation internationale, c'est d'abord une amitié relayée, une amitié entre deux peuples. C'est aussi du respect mutuel que nous avons les uns envers les autres. Et c'est aussi des liens de fraternité que nous avons et que nous essayons de mener malgré les temps un peu internationaux, un peu difficiles. Mais ça fait rien, on essaie vraiment de tenir. Comment se développe cette amitié? C'est d'abord par des voyages. Nous avons fait le choix de faire voyager notamment des jeunes. Alors, pas dans les dernières années, bien sûr, hein, mais de faire voyager des jeunes qui nous ont ramené plein d'amitié, de témoignages. Et puis, oui, des amitiés qu'ils ont gardées encore aujourd'hui. Ces jeunes, ils ont maintenant 30-35 ans et ils continuent à avoir des liens avec les jeunes qu'ils ont connus là-bas à Sanga. Cette amitié, elle vient aussi par des amis maliens qui sont venus sur Alonne. Je me souviens d'un moment extraordinaire que nous avons vécu parce que 5 ou 6 femmes maraîchères sont venues à Alonne. Et à Alonne, nous sommes une ville de banlieue avec beaucoup de jardins familiaux. Et elles sont venues dans les jardins familiaux apprendre de ce qui se faisait en France, mais aussi expliquer leur manière de travailler au Mali, ce qui fait qu'il y a eu un vrai échange. Et cet été, nous avons continué cet échange avec le maire de Sanga, Ali Dolo, qui est venu avec son premier adjoint et des techniciens, là aussi dans les jardins. Et ce qui était vraiment intéressant, c'était cet échange. Parce qu'une coopération décentralisée, ça ne doit pas aller de la France vers un autre pays, ça doit être un vrai échange avec du respect. Et c'est pareil, nos amis du Mali ont montré et appris des techniques aux jardiniers sartois. Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous avons, comme avec vous, monsieur, entretenu cette amitié par la correspondance scolaire, qui, en envoyant des dessins ou des lettres toutes simples, quand on est enfant, forme un futur citoyen de façon extraordinaire. Bien sûr, depuis 2020, depuis le Covid et puis après les tensions internationales, c'est un petit peu plus difficile de faire des voyages. Donc nous entretenons cette amitié par des visios, des appels téléphoniques, etc. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et tout ce qu'on peut obtenir, tout ce qu'on peut faire avec la commune de Sanga, c'est aussi en lien avec nos partenaires. Un de nos partenaires essentiels est là aujourd'hui, Sébastien Roudiara, qui est président de l'AMCID, que je remercie d'être là. Et d'autres partenaires, ce sont des partenaires associatifs, tels que la CAD, tels que l'ADESAF, qui vont, eux, sur le terrain, mais qui connaissent notre philosophie et qui respectent vraiment notre philosophie. Alors, les actions que nous avons, je ne veux pas être très très longue, ne vous inquiétez pas, c'est le développement de l'eau et de l'assainissement depuis une dizaine d'années. Là aussi, avec les financements de l'État, de l'Agence de l'eau, de la région, etc. Et puis aussi, une partie formation qui nous paraît importante, puisque c'est très bien d'installer du matériel, mais il faut savoir l'utiliser. Donc, avec des formations de fontainiers, de techniciens qui peuvent réparer le matériel. Nous avons aussi un gros travail réalisé par la ville d'Alonne, mais aussi par l'association Alonne Sanga Devenir, qui est une association attenante et qui travaille aussi, enfin qui entretient des liens d'amitié avec Sanga sur le maraîchage, une aide pour favoriser et agrandir la question du maraîchage. Voilà. Nous discutons beaucoup avec Ali Dolo, donc le maire de Sanga, et c'est une question qui vient parce que nous discutons tout à fait librement, nous sommes amis. Donc on peut discuter, y compris quelquefois ne pas être d'accord, ce qui n'est pas grave. Eh bien, sur la question du sentiment anti-français, bien sûr, qui est venu dans nos discussions, Ali nous dit il ne faut pas confondre ce que les deux États peuvent se... Enfin, les tensions entre les deux États et les citoyens. Lui nous dit, et ses adjoints aussi nous disent la même chose, les habitants de la commune de Sanga sont amis avec les habitants de la commune d'Alonne. Ils sont amis parce que ça fait 20 ans qu'on est amis. On a dépassé les histoires d'argent, les histoires de choses comme ça. Nous sommes avant tout amis. Et une amitié, ça ne se rompt pas comme ça. Et donc, lui, il dit, bien sûr qu'il y a des tensions, mais des tensions entre les pays, pas des tensions entre les citoyens des pays. Voilà.
Merci pour ce beau témoignage, j'ai envie de dire. Qui met encore de l'eau à notre moulin et qui vient étayer la discussion en complément des interventions précédentes. Comme le temps file à toute vitesse, on va passer aux questions-réponses. On va en prendre deux ou trois. Et puis, voilà, comme ça, les intervenants pourront y répondre. Donc, si vous voulez bien, Laura et Lise aussi, faire passer les micros.
Merci. Bonjour tout le monde. Bon, salut ceux qui ont intervenu et salut le représentant du maire, du président de l'AMS du Sénégal. Et surtout aussi féliciter Elgaz. Ça a été une fierté quand même, honneur de vous écouter aujourd'hui. Au-delà des questions, moi je voudrais parler, vous avez parlé du discours. Le discours, il est important. Et je vais citer deux discours de l'ex-président Sarkozy. D'abord à Dakar, quand il avait dit que l'homme africain, le drame de l'homme africain, parce qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire. Vous voyez ce que ça fait? Le sentiment anti-français est nourri par des discours. Et c'est ça où j'ai beaucoup apprécié quand vous avez parlé du discours. L'autre discours, si vous avez, vous voyez que au niveau de l'Afrique, ces manifestations, ce sentiment orchestré et organisé. Il y a une autre phrase pour dire que l'islam de France, pas l'islam en France. Ça, les gens se nourrissent de cela. Les extrémistes, vous avez entendu, l'islam est universel. Il n'y a pas l'islam du Sénégal, l'islam du Niger, mais l'islam de France, mais pas l'islam en France. Pour vous citer ces deux discours, qui quand même, pour vous réconforter, pour vous dire qu'encore une fois de plus, le discours, il est extrêmement important. Cette relation d'égalité entre les peuples, ce respect, il est important. Il faut le conserver. Et notre collègue l'a dit tout à l'heure, la diplomatie des peuples, c'est la diplomatie des territoires. Elle est fondamentale. La refondation passera par cette diplomatie des territoires. Il est important que ces peuples, à partir des territoires, puissent s'approprier de cette diplomatie pour dire qu'au-delà des relations, ce qu'a dit Mme le maire, au-delà des relations entre les États, mais entre le peuple, c'est le même peuple. Les Africains aiment les Français. Ils aiment les Français. Mais des fois, ils sont frustrés, ils sont attaqués, ils sont indignés par certains comportements, par certains discours qui blessent, qui heurtent et qui sont exploités par les autres pour essayer de les guider. Et c'est ça qu'il faut repenser pour ne pas être le jour. Je vous remercie. Je suis le M. Diallo, Ouri Diallo. Je préside l'Union des associations des élus locaux du Sénégal. Merci.
Allô? C'est bon. Lamine Camara, maire adjoint à Grigny, conseil régional de l'Île-de-France. Et puis nous avons une coordination qu'on appelle la coordination des élus français d'origine malienne. En fait, je viens du Mali, j'ai fait 40 jours. C'est clair, il y a un rejet de la politique française. Mais quand on interroge les gens, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à cela? Ils disent deux choses. Depuis l'indépendance, on n'arrive pas à développer les infrastructures de base. Et je me rappelle, en 1991, quand le régime militaire est tombé, les gens, on était petits, on discutait entre nous. L'argent que le régime dessus a détourné, si on partageait entre nous tous, on deviendra tous riches. Ça, c'était un premier point. Et c'était largement partagé. Mais qu'est-ce que nous avons constaté avec la démocratie, en fait? Non seulement la question de développement n'a pas été résolue, et on se retrouve dans l'insécurité. Donc, ce qui fait que la démocratie est essentiellement tournée autour des élections et avec les contestations qui s'en suivent. Donc, la population se retrouve dans une situation en se disant, ben, écoutez, avec la démocratie, on n'a ni le développement ni la sécurité. Donc, pourquoi pas ne retourner à l'ancien système? Ça, cette question est posée de façon fondamentale. Donc, je vais même aller au-delà du rejet de la politique française. En réalité, le rejet de la politique française représente en réalité la question de la répartition des richesses, en fait. C'est ça qui est posé au-delà de ces mots, en fait. C'est-à-dire que, de plus en plus, la question qui est posée au niveau même mondial, c'est la question des répartitions des richesses. Et quand on interroge, on écoute tentativement, cette question effectivement revient, en fait. Mais les mots diffèrent, mais en réalité, le fond, c'est la même chose. Donc, moi, je voudrais dire, parce qu'il ne peut pas avoir de rupture, ce n'est pas possible, mais il faut effectivement améliorer les choses. C'est pourquoi la question des coopérations décentralisées est essentielle, parce que ça réunit trois acteurs. Ça réunit la diaspora, ça réunit les deux collectivités locales et ça réunit la population locale. Et la deuxième chose, il faut gagner ce combat de développement. C'est pourquoi l'Agence française de développement doit être encore plus appuyée financièrement pour qu'il puisse orienter les enjeux du développement en lien avec les collectivités locales. La deuxième chose, je pense qu'il faut s'engager véritablement dans les échanges universitaires technologique et culturelle. C'est très important, en fait, entre nos deux peuples, parce que c'est cardinal en termes de relations humaines entre les gens. Et j'avoue, parce que quand on remarque, parce que ce qui est incompréhensible au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso comme au Niger, en fait, il y a la présence de la base militaire française et la sécurité augmente. Donc, ça ne se comprend pas. Moi, je pense qu'il est assez important aujourd'hui de revoir la question des bases militaires françaises en Afrique, à l'aune, effectivement, de la réalité qu'on connaît. Je pense qu'il faut un temps où on se pose pour garder véritablement ces choses. Mais je suis fondamentalement convaincu que la place des collectivités locales dans cette refondation est incommensurable. Je vous remercie.
Alors, une troisième question, et ensuite on laissera les intervenants réagir. Essayez de faire succinct. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, parce que c'est plus des prises de parole, mais ce n'est pas très grave.
Merci beaucoup. Je suis Mme Bernadette Chungu, ancienne élue locale de la métropole dijonnaise et membre du collectif des élus français d'origine congolaise. Depuis 2 ans, j'ai décidé de retourner au Congo, à la République démocratique du Congo, qui est mon pays d'origine, pour pouvoir apporter un regard croisé entre mes deux cultures, la France, qui est mon pays d'accueil, et le Congo, qui est mon pays natal. Aujourd'hui, je fais partie de la délégation officielle du ministère de la décentralisation, voilà, pour venir prendre contact. Parce que figurez-vous, la République démocratique du Congo, c'est le plus gros pays francophone, le plus grand pays en nombre d'habitants, et le deuxième par la superficie après le Québec. Le Québec, mais elle n'a pas été colonisée par la France, mais nous remercions quand même la Belgique de nous apprendre la France, les Français comme la langue nationale, les langues officielles. Je viens ici faire un constat que ce pays manque des relations décentralisées avec la France. La coopération décentralisée pour nous, les membres du collectif des élus français d'origine congolaise, c'est d'apporter un regard croisé, comme je l'ai dit. Nous voulons ici, et nous sommes porteurs d'un message d'une demande solennelle que le pays adhère au programme des cités Unies France pour pouvoir participer activement via la coopération décentralisée au développement par la base. Nous sommes là. Il y a des activités ou des actions par-ci, par-là, menées par les associations, mais nous trouvons que ce n'est pas suffisant. Quand on a fait part au ministère pour venir participer, la plupart ne savaient pas qu'est-ce que c'est la Cité Unie France. Et nous sommes là pour prendre ces contacts, pour pouvoir aujourd'hui amener ces grands pays qui ne peut pas manquer sur la table des décisions ou de coopération entre les territoires. La République démocratique du Congo a 145 territoires, ce qu'on peut appeler ici des petites communes. On y ajoute les villes et les communes des villes. La République démocratique du Congo fait 4,5 fois la France. Ça, c'est la petite histoire. Et merci. Aujourd'hui, excusez-moi, je vais juste conclure par là. J'aimerais aussi rebondir sur ce que la dame a dit. La base inégale d'exercice du savoir qui est appliquée entre le savoir qu'on a en commun et l'application inégale. Mais moi, je dirais, c'est la matérialisation, c'est la copie-collée qu'on fait aujourd'hui. L'Afrique a une histoire, l'Afrique a plusieurs culture. Et je pense qu'un développement ne peut pas être universel, mais ça doit être adapté à l'identité et à la culture de chaque pays. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Elgas, en réaction à, soit aux interventions ou alors au témoignage des élus précédents.
Oui, merci. Je voudrais juste préciser deux points. Il me semble que, en fin de compte, dans la tonalité de nos discussions aujourd'hui, je trouve encore l'Afrique absente du territoire des initiatives, comme si elle devait être finalement uniquement dans une certaine forme de plainte de ne pas recevoir assez, mais il faut produire. C'est-à-dire ce que dit le monsieur, je suis assez d'accord, en fait. Mais si vous interrogez les Maliens et qu'ils disent que, grosso modo, on n'est pas développé, c'est de la faute de la France, en quelque sorte, c'est tragique. Il n'appartient pas à la France de développer l'Afrique. Et j'ai l'habitude de le dire, en France, en Afrique, la France n'est ni la solution, ni le problème. S'il y a eu des échecs dans la construction de la démocratie, les comptables, ce sont les Maliens. Et donc, c'est pourquoi, en fait, dans la logique, en fait, du sentiment, moi, je l'appelle le ressentiment, avec un développement qu'il serait long d'évoquer ici. Mais c'est là où on tombe dans la logique du bouc émissaire, c'est-à-dire, et cette logique du bouc émissaire, elle est facile, c'est expliquer toutes les faillites, toutes les défaillances par la logique accusatoire d'un ennemi qui est fantasmé. Et ça, je pense que c'est important. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure en disant qu'il y a deux aspects sur la question du sentiment anti-français, de la terminologie, même si je la conteste. Je ne conteste pas le fait que la logique du bouc émissaire existe. Et d'ailleurs, les autres puissances l'ont parfaitement compris. La Russie, par exemple, elle l'exploite à merveille. Parce que quand on voit des gens arborer des drapeaux russes, en quelque sorte, en contestation, ils ne sont dans aucune manifestation d'un patriotisme. Ils sont dans un changement de tutelle. Et ce que ça dit, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du sentiment, mais d'un ressentiment dont j'ai voulu dégager la généalogie et la perspective historique. Et ce que j'appelle, en fait, ce qui est important, et dans les recherches, c'est ça, pour que l'Afrique soit entendue, pour que les pays africains soient entendus, il faut qu'ils créent des politiques publiques, soit dans des aventures démocratiques et des institutions solides, créent de l'ingénierie économique. Mais pourquoi pas avoir des instituts du Sénégal en France ? Pourquoi ne pas avoir des instituts du Sénégal pour promouvoir la culture sénégalaise au Japon, ainsi de suite ? Donc l'esprit d'initiative, on l'a complètement déserté. Et donc, on risque d'avoir ce genre de discussion dans 50 ans où on va dire encore une fois, la faute, c'est encore la colonisation, la France. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui me paraît très problématique. Il faut que dans la logique de l'ingénierie économique, sociale, politique, culturelle, démocratique, qu'il y ait force de proposition, parce que c'est ainsi qu'on acquiert l'indépendance, pas par le discours uniquement, mais par des faits.
Merci. Et d'ailleurs, vous insistez beaucoup sur les faits, sur l'importance des faits pour justement pallier aux discours, aux préjugés, aux idées préconçues dans votre analyse. Ornella, est-ce que vous avez une réaction ? Est-ce qu'on peut voir Ornella ? Est-ce qu'on peut mettre... Merci. Alors vous n'avez peut-être pas tout entendu, on vous entend. Vous n'avez peut-être pas tout entendu, mais vous avez peut-être une réaction suite à ce qui a précédé.
Alors, j'ai entendu en partie. Donc, je vais essayer de réagir de manière vraiment très, très succincte. Je pense que la plupart des points qui ont été soulevés sont plutôt des points de discussion et des points de vue, pas tellement des questions. Donc, n'appelle pas nécessairement une réponse. Je voudrais simplement... m'inscrire une nouvelle fois dans la même ligne que les différents intervenants élus qui ont rappelé que les oppositions qui existaient, comme je l'avais dit dans mon propos, n'étaient pas forcément au niveau individuel, n'étaient sans doute même pas essentiellement au niveau individuel. Donc ça laisse effectivement une porte d'entrée, et je pense que c'est peut-être un rôle que la coopération décentralisée peut jouer dans les mois, dans les semaines à venir, pour maintenir une forme de lien formel, de lien institutionnel, au-delà de celui qui existe et qui va perdurer au niveau des amitiés individuelles, au niveau des liens familiaux et diasporiques, etc. Donc, je m'en tiendrai peut-être juste à cette remarque finale. Merci beaucoup.
Alors, on est au bout de notre tranche horaire. Donc, on va malheureusement devoir s'arrêter là. Peut-être avant... Bon, c'est vrai qu'on a commencé en retard, donc on aimerait un peu prolonger la discussion. Peut-être qu'on peut prendre deux questions courtes, ensuite, et ensuite on clôturera. Alors, d'accord, Ada et puis monsieur de l'opérateur malien, dont j'ai oublié, monsieur Diouda.
Monsieur Diara.
Pardon.
Non, je voudrais simplement insister et confirmer tout ce que les uns et les autres ont dit, notamment notre ami sénégalais, c'est qu'il faut mettre le curseur sur le fait qu'il n'y a pas de sentiment anti-français. Parce qu'il y a une amalgame entre sentiment anti-français, c'est-à-dire sentiment anti-politique française, et sentiment contre les Français. Moi, je n'ai vu ni au Mali, ni au Niger, ni au Burkina, que des Français soient victimes, soient inquiétés dans leur activité quotidienne. C'est des sentiments anti-gouvernement français, ça il faut le dire, anti-politique gouvernement français. Et ça, je reviens pour dire que on revient souvent sur la question de la colonisation. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier, mais il n'y a pas que ça. Il y a des comportements, beaucoup l'ont dit, des comportements, des discours. Sinon, le sentiment qui existe aujourd'hui par rapport à la politique du gouvernement français, ben on aurait pu l'avoir aussi avec le Royaume-Uni. Parce que la France a colonisé autant de pays en Afrique, le Royaume-Uni aussi. J'irais même jusqu'à dire l'Allemagne, la Belgique ont eu des colonies, le Portugal. Mais est-ce qu'il y a cette même réaction vis-à-vis de ces pays comme la France ? Non, ça s'explique par les comportements. Beaucoup ont parlé de discours. C'est aussi ça, malheureusement. Je finis pour dire, et ça, je ne sais pas qui est-ce qui l'a dit tout à l'heure, la coopération décentralisée a un rôle extrêmement important à jouer. Je prends l'exemple du Mali. Au Mali, il y a à peu près une centaine de coopérations décentralisées entre la France et le Mali, que ce soit les collectivités, que ce soit les communes, les départements, les régions. Ça peut être un bon vecteur pour promouvoir ces relations, pour renforcer ces relations d'amitié entre nos deux populations. Merci.
Merci. Alors, peut-être les élus qui sont intervenus en tribune, est-ce que vous voulez dire un dernier mot, un dernier message avant de clôturer ?
Non, je crois qu'on a tout dit. Hein. Peut-être vous remercier encore au nom du président donc, Omar Ba et dire qu'en tout cas, c'est des questions qui sont ouvertes et qui le méritent d'être en tout cas réfléchies. Et je pense que les pistes qui sont déclinées ici, à savoir surtout en tout cas la coopération décentralisée vers beaucoup plus en tout cas une relation d'amitié, comme l'a souligné Madame le maire, donc entre les peuples, permettra en tout cas d'évacuer ou en tout cas de régler plusieurs questions qui se posent aujourd'hui donc dans ces relations entre en tout cas la France, l'Occident et les pays africains. Je crois que il faudrait de plus en plus qu'on puisse repenser cette coopération qui est donc décentralisée. En tout cas, les élus d'aujourd'hui en ont claire conscience Et je pense que ça pourra permettre en tout cas de régler donc ces différends-là. Voilà, en tout cas, moi, je crois fortement en ça. Et je crois que les quelques exemples qui sont déclinés ici permettent véritablement de penser que c'est une solution, en tout cas une voie qu'on devra explorer davantage pour pouvoir en tout cas régler ces questions en tout cas, la France. Je vous remercie.
Je serai très rapide juste pour un élément qui n'a pas été abordé dans la discussion, pour conclure. La coopération décentralisée n'est pas un plus dans l'activité de nos collectivités. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en plus comme un supplément d'âme. Tout le monde doit avoir conscience qu'aujourd'hui en France, nous sommes engagés dans un combat contre le racisme qui monte, qui se développe. Et ce combat, il est essentiel pour nous comme citoyens. Et que donc la coopération décentralisée fait partie de ce combat. Elle est au cœur même de nos politiques publiques. Elle n'est pas qu'un supplément parce que nous aurions quelques excédents financiers à dépenser. Elle est au cœur même de notre stratégie comme collectivité locale qui doit assurer la solidarité et le lien social.
Ça durera 10 secondes. Moi, je fais vraiment un appel au gouvernement français pour relancer, réaccepter et refinancer les coopérations décentralisées. Parce que nous, communes, on ne peut pas le faire. Nous, c'est 1 euro par habitant par an. Pareil, comme vous. Et il faut que l'État français relance parce que ça va permettre quoi de plein de projets et ça permettra d'améliorer les choses, y compris les relations entre les pays et la France.
Merci. On arrive à la fin. Une minute d'attention encore, hein, s'il vous plaît. Constance, si tu veux bien dire le mot de la fin et puis peut-être annoncer la suite du programme.
Merci à toutes et tous. Merci aux intervenantes et aux intervenants. Et d'ailleurs, on peut le constater, hein, vous avez cité un mot ou deux mots, peuple, territoire. Je crois qu'on est là tous réunis pour ça. Et évidemment, nous, à Cités Unies France, on est rassurés. Bon, on le savait déjà. Que ce sentiment, entre guillemets, anti-français était à certains niveaux, mais qu'il n'était pas, qu'il ne vous parcourait pas toutes et tous. Et donc, on est content, plutôt, de savoir qu'on est encore en capacité, les uns les autres, de discuter. Vous êtes en capacité de discuter avec vos partenaires. Et ce ne sont pas que des partenaires, c'est juste une communauté de personnes. Et surtout, il faut qu'on pense à ce qui nous réunit, à ce qui fait sens les uns les autres, et non pas à ce qui nous divise. Je crois qu'on a quand même, on fait face à des enjeux aujourd'hui au niveau planétaire, au niveau sociétal, au niveau économique, et véritablement, je crois que travailler à la paix, parce que c'est aussi ça, la coopération décentralisée, c'est un combat pour la paix, pour le dialogue, pour la concertation. On en a connu des situations difficiles entre les différents pays, mais la coopération centralisée est toujours rebondie. Elle a rebondi aussi parce qu'elle s'appuie sur les peuples, effectivement, les citoyens, les enfants, ça a été dit, et merci beaucoup, mais aussi les plus âgés, c'est intergénérationnel, c'est interculturel, c'est multiniveau, c'est multi-acteurs. Donc on est là pour ça. Vous avez maintenant d'autres réunions qui vous attendent, d'autres temps qui vous attendent. Prenez le temps aussi de discuter les uns les autres, de vous disputer un peu. Il n'y a rien de mieux que de se disputer un petit peu pour mieux s'aimer davantage. Et surtout, profitez de ces deux journées. Faites-nous remonter aussi les échanges que vous avez avec vos partenaires. C'est important pour nous à Cités Unies France. Très, très bon après-midi à vous. Très, très belle journée. Prenez soin de vous. Et merci Ornella. Au revoir à toutes et tous.